Salut, c'est Johan de Podcast Science. Avant de commencer l'épisode, on voudrait vous inviter à notre prochaine émission en public, notre radio dessinée. Le thème est alléchant comme une chronique de topo, avec pour titre « Quelque chose de pourri au royaume du podcast ». Si ça vous tente de voir une émission de Podcast Science en public et de nous rencontrer, l'émission aura lieu le samedi 27 avril à 19h30 au magasin de jeux Le Play-In, au 52 rue de Rivoli à Paris. Vous pouvez vous inscrire gratuitement sur notre site podcastscience.fm et on vous attend la semaine prochaine.
Probable effet de l'air du temps, mes récentes lectures tournent autour de sujets très actuels, tout en étant particulièrement anciennes. En effet, après avoir achevé Le Prince de Niccolo Machiavelli, j'ai enchaîné avec L'Art de la guerre de Sun Tzu, que je vais m'apprêter par compléter avec le traité éponyme de Niccolo Machiavelli. Dans ces différents textes, une maxime revient souvent qui donne en latin, sous la plume de Machiavel, « divide et et impera », divise et règne. Quelle surprise de se rendre compte que cette sagesse, au-delà de s'appliquer en politique et stratégie martiale, se manifeste pleinement en biologie. Nous sommes le mercredi 20 mars 2024 et vous écoutez l'épisode 506 de Podcast Science pour un sujet très clivant, la division asymétrique. Et ce soir, autour de notre table entièrement virtuelle, nous sommes divisés entre régions, à commencer par le Grand Est, où l'on trouve Pascal. Bonsoir Pascal.
Bonsoir tout le monde.
Puis nous passons à la Normandie, où l'on trouvera le sémillant Cléora.
Salut à tous.
Ensuite, nous passons à la région PACA, qui accueille Irène.
Bonsoir, bonsoir.
Et comme nous allons parler d'asymétrie, il reste à vous présenter la grosse région de l'Île-de-France, où nous trouvons respectivement Gaël.
Bien le bonsoir.
Johan.
Salut.
Puis votre humble serviteur, Topo, à Pierre Kerner. Je joue le rôle de MC ce soir et j'ai le plaisir d'inviter à notre micro Lisa Sard pour nous parler de son sujet de thèse qu'elle réalise à l'Institut Pasteur. Bonsoir Lisa.
Bonsoir, merci beaucoup de m'inviter.
Avant de céder la place à Lisa, justement, pour qu'elle puisse nous présenter son dossier, je vais me permettre de la présenter et de dévoiler une astuce pour recruter des intervenantes et des intervenants sur Podcast Science. À l'instar de Gaëlle, Lisa est une de mes anciennes étudiantes, notamment de la prestigieuse formation du magistère de génétique d'Université Paris-Cité. Ainsi, j'ai eu le plaisir de lui enseigner les rudiments de la biologie du développement animal en troisième année de licence en 2019, moyenne de 13,75.
Mais non.
Pas top, hein.
Pas top,
La plasticité et évolution du développement en première année de master en 2020, moyenne 17, ça augmente. Et un cours de communication scientifique, moyenne 16,875, où, avec trois camarades, elle a rédigé un billet de blog intitulé « Rick et Morty, Cell Park ». J'ai ensuite eu l'occasion de revoir Lisa à l'occasion de sa soutenance de thèse de Gaël, puis à une conférence Stem Cells in Vivo, cellules souches in vivo à l'Institut Pasteur, où Lisa nous présentait son travail passionnant. D'ailleurs, Lisa, est-ce que tu peux nous dire dans quelle équipe de cet institut tu travailles et sur quel sujet ?
Oui, bien sûr. Donc, je travaille à l'Institut Pasteur, comme tu as dit, dans l'équipe de Shargim Tajbag et sous la supervision de Brendan Evano. Et je travaille sur les cellules souches et le développement, plus particulièrement les divisions asymétriques et symétriques dans un modèle de régénération musculaire.
Fantastique. Et ni une ni deux, je lui proposais de venir sur le podcast pour nous révéler les secrets de la division asymétrique. Sans transition, Lisa, dis-nous en plus.
On dit parfois que les questions les plus simples sont souvent les meilleures. Je pense que c'est assez vrai en biologie. Souvent, les problèmes simples reposent sur des mécanismes complexes et universels. Mon exemple fétiche, les divisions cellulaires. Un mécanisme d'apparence simple et immuable, et pourtant vous allez voir, il y a de quoi philosopher pendant des heures. Mais je vous rassure, ce ne sera juste le temps d'une émission. La division cellulaire, c'est le mécanisme fondamental du vivant. Depuis le jour de notre conception, d'innombrables cellules qui composent notre corps se divisent. D'ailleurs, vous remarquerez que la biologie, c'est la seule science où multiplication et division, c'est pareil. Donc j'envoie tout mon courage aux mathématiciens qui nous écoutent. Il existe deux types de divisions. La mitose, qui concerne la plupart des cellules du corps, et la méiose, que je n'aborderai pas aujourd'hui, mais qui concerne les cellules participant à la reproduction sexuelle. La mitose permet, à partir d'une cellule dite mère, la génération de deux cellules dites filles. Pendant leur vie, les cellules sont soit en train de se diviser, soit en train de se préparer à la division, soit elles deviennent des cellules tellement spécialisées qu'elles ne peuvent plus se diviser, comme par exemple les globules rouges qui perdent leur noyau et donc le patrimoine génétique à répartir entre cellules filles. Au fur et à mesure de division, les cellules se spécialisent par différenciation cellulaire pour acquérir des identités spécifiques et permettre la croissance et le maintien des organes au cours du temps. Donc, à chaque stade de développement de l'organisme, donc l'embryon, le fœtus, l'adulte, il existe des cellules qui ont le super pouvoir de produire continuellement, des cellules filles similaires à elles-mêmes pour s'auto-renouveler, mais qui, en parallèle de ça, produisent des filles avec des propriétés différentes et plus restreintes. Ces cellules, qui ont plus de potentiel à générer des différents types d'autres cellules, sont appelées cellules souches.
Alors, moi, ça m'évoque quand même quelque chose. Il y a souvent une petite confusion entre cellules mères et cellules filles. On est d'accord, quand une cellule mère se divise, elle disparaît d'une certaine manière.
Exactement. Il n'y a pas trois cellules qui sont créées à la fin. D'accord. On part d'une cellule, ensuite, elle va dupliquer son ADN pour générer à la fin deux cellules.
Et c'est toujours une mère, deux filles. Il n'y a pas de cas avec d'autres.
Oui, une d'accord. Mère, deux filles.
En tout cas, ouais, chez les animaux, je crois pas qu'il y ait vraiment de ça.
Je crois pas. Je crois que dans certains exemples, mais je me souviens plus du nom, de mollusques assez exotiques, il peut y avoir une cellule mère qui va se diviser et qui va créer d'apparence trois cellules, mais la troisième cellule va finalement être engorgée par une des cellules, et à la fin, ça va générer deux cellules. Donc on part de une. On a une apparence de trois cellules au moment de la division, mais après, ça fait deux.
Ok.
Moi, les seuls exemples dans lesquels je vois une cellule mère qui donne plein de cellules, c'est des cas de parasitisme. Donc, c'est une cellule qui est parasitée, et à l'intérieur, le parasite fait que cette cellule donne plein de cellules d'un coup, mais c'est justement parce que ça sert au parasite de pouvoir faire une multiplication énorme du patrimoine génétique parasité.
Merci.
Mais c'est très très rare.
Chez l'adulte, il existe en très faible quantité ces cellules souches dans une majorité des tissus. Muscles, foie, peau, etc. Moins spécialisées que des cellules différenciées, elles sont initialement en phase de repos, appelées quiescences, et elles se cachent dans des endroits spécifiques appelés niches. Ces niches représentent un environnement cellulaire fournissant le soutien et les signaux nécessaires pour permettre leur auto-renouvellement. En cas de blessure, par exemple, elles sortent de quiescence, s'activent, prolifèrent par division cellulaire, et pendant ce processus, une fraction des cellules souches s'auto-renouvellent pour maintenir un stock de cellules souches dans le tissu. Personnellement, je trouve ça assez fascinant de voir que des cellules souches sont capables de manipuler leur destin pour choisir ou non de se différencier. Et c'est d'ailleurs pour comprendre comment ce destin est régulé que j'ai décidé de faire un doctorat sur le sujet. Et évidemment, je suis pas la seule sur le coup. Beaucoup de chercheurs travaillent sur les cellules souches parce qu'elles offrent l'espoir de mieux comprendre et de soigner les maladies.
Ouais, j'avais juste une question. Qu'est-ce que tu entends par blessure dans ce cas-là ?
Donc, ça peut être, par exemple, si on prend le cas du muscle, ça peut être une lésion musculaire ou qui arrive au cours du temps, tous les jours, en fait. On peut avoir des micro-lésions ou des plus gros traumatismes, par exemple, une déchirure du muscle. Dans le cas de la peau, ça peut être le fait de se couper, par exemple. Ça, ce dérèglement un peu de l'état normal du tissu, ça va faire que les cellules souches présentes dans les tissus vont s'activer et vouloir réparer les zones.
Donc, c'est vraiment quelque chose de mécanique, quoi.
Il y a des signaux mécaniques et aussi des chimiques par signalisation de molécules.
Et Lisa, du coup, quand tu parles de quiescence, des fois on entend parler de dormance, c'est la même chose, la quiescence et la dormance cellulaire, ou c'est deux mécanismes physiologiques différents ?
À ma connaissance, c'est la même chose, même si au sein de la quiescence, il y a plusieurs états de quiescence. Il y a la quiescence profonde et la quiescence un peu moins profonde, quand on est un peu plus sur le pas de se réveiller. Donc il existe un spectre de quiescence un peu plus grand, peut-être que c'est là que se situe la dormance, dans ces différents spectres.
Ok, merci.
À chaque division, la cellule a le choix de produire des cellules spécialisées par différenciation cellulaire. On peut les imaginer de couleur rouge, le rouge de la détermination, ou recréer des cellules souches, disons-les jaunes, comme l'or, signe de prospérité. Si elle veut être efficace, la cellule peut produire par division dite symétrique deux cellules jaunes, ce qui permettrait d'augmenter le stock souche dans le tissu, ou deux cellules rouges, entraînant la production de cellules spécialisées. Parfois, la cellule n'a pas envie de choisir. Et dans ce cas-là, elle donne, dans une division, une cellule jaune et une cellule rouge. Cette division très particulière porte le nom de division asymétrique. S'il n'y avait que des divisions asymétriques, ça permettrait de maintenir constant le stock souche et différencié de jaune et de rouge.
Ok, donc pour résumer, là on a une division asymétrique qui permet d'avoir deux destins différents. Et deux types de divisions symétriques qui donnent à chaque fois des destins identiques entre cellules filles. Un où ça donne deux cellules différenciées d'un coup, et un où ça donne deux cellules souches d'un coup.
Exactement. Je reviendrai sur la notion de destin, qui est aussi particulière, mais c'est exactement ça.
Après, là, elles sont pas immédiatement différenciées, on est d'accord. Les cellules filles, dans le cas d'une des divisions asymétriques, dans le cas d'une des divisions symétriques, on a deux cellules rouges, c'est des cellules qui vont ensuite se différencier, mais elles ne sont pas encore différenciées à ce stade, non?
Donc ça, c'est une question que je trouve très intéressante, c'est à partir de quand la différenciation arrive? Quel est le premier processus qui te dit « Ok, ma cellule se différencie ». Il y a plusieurs écoles et ce n'est pas encore très clair. On se demande si ça arrive même avant la mitose, donc avant la division, pendant la division, et dans ce cas-là, on aurait des facteurs déterminants de la différenciation qui sont là pendant la mitose ou après. Par exemple, et moi, c'est ce que je vois dans mon système, la présence de marqueurs qui t'indiquent que ta cellule est différenciée, mais là, ils arrivent après la division.
Ok.
Mais si ça arrive après la division, au moment de la division ou juste après la division, c'est au final deux cellules souches, non ?
Ça suppose que à chaque fois, on a une division de cellules souches et que dans ce cas-là, ça supposerait qu'on a une division et à chaque fois, c'est des cellules souches et qu'ensuite, ça se différencie. Ça voudrait dire que il n'y a que des divisions symétriques et que c'est après qu'on a une des cellules qui va ou non se différencier. Mais ça, c'est encore pas complètement clair et surtout très dur à démontrer.
Je vois qu'on se pose des bonnes questions.
C'est de bonnes questions.
Je torture déjà l'esprit.
Exactement. Mais attendez la fin, sinon vous allez être fatigué. Donc, évidemment, ces modes de division doivent être finement régulés. Une cellule qui se divise trop sans jamais se spécialiser, ça peut créer une croissance anormale et potentiellement cancéreuse. À l'inverse, si les cellules souches se divisent peu et s'engagent directement vers la réparation en se différenciant, il n'y a pas assez de cellules à même de réparer le tissu et en plus on perd le stock souche pour les prochaines blessures. Conclusion, la régénération d'un tissu dépend d'une balance précise entre cellules différenciées et souches, entre les différents modes de division. Dans ma thèse, j'essaie de comprendre ce qui régule ces modes de division. Donc tout ça c'est bien sympa, mais comment on étudie les divisions cellulaires ? Grâce à une technique ancestrale, très sophistiquée, de haute volée, souvent utilisée en biologie, en cassant des trucs. Je m'explique. En biologie, pour comprendre comment quelque chose fonctionne, on en casse une partie, on observe la réaction du système et on en tire une conclusion sur la fonction de l'objet. Par exemple, imaginez que je vous présente pour la première fois des manteaux sans que vous ne sachiez à quoi ils servent. Si je fais des trous dans l'un d'eux, vous verrez qu'avec le manteau troué, vous avez froid et qu'avec le manteau intact, vous êtes bien au chaud, malgré votre silhouette de bonhomme Michelin. La conclusion de cette expérience, c'est que le manteau sert à se protéger du froid.
Là, je sens que Joanne est jaloux, puisque il travaille en astronomie, et il dirait « moi aussi, j'aimerais bien faire ça. On enlève un soleil, on voit ce qui se passe.
» Non, moi, je travaille à construire des télescopes, ça marche aussi très bien. Tu casses le miroir, ça marche moins bien, tu refais.
Mais ça coûte un peu cher aussi.
Ça coûte plus cher l'astronomie. C'est pas...
Ça va bien ton boulot, Joanne.
Et il faut dire que les physiciens des particules aussi font ça avec très grande classe, casser des trucs.
Ouais,
c'est vrai.
C'est un peu plus dangereux quand même.
Ouais. Donc c'est vrai que pour la biologie et les divisions asymétriques, je fais un peu la même chose moi. Pour comprendre comment elles sont régulées, on étudie des cas où elles ne fonctionnent plus à cause de mutations de certains gènes. On découvre alors des gènes et des mécanismes nécessaires au fonctionnement des divisions asymétriques et symétriques. Historiquement, un des mécanismes responsables de la division asymétrique a été découvert dans l'embryon d'un petit ver appelé C. elegans. En fait, quelques minutes après fécondation, pour la première division de cet organisme, des protéines appelées PAR, pour partitioning defective en anglais, se régionalisent d'un côté de l'embryon et permettent le recrutement local d'autres protéines. Cette ségrégation asymétrique de molécules génère alors deux cellules différentes au moment de la mitose en termes de morphologie et de fonction. Dans le cas où les protéines PAR sont défectueuses, cette première division asymétrique n'est pas possible et le pauvre petit ver ne survit pas.
Alors, est-ce que tu te souviens, Lisa, justement, qu'est-ce qui se passe, en fait, techniquement? Donc là, j'imagine, on a une cellule œuf, ouais. Elle se divise, et si, justement, ces protéines PAR sont absentes, mm-hmm. qu'est-ce qui se passe concrètement à ce moment-là?
Donc, c'est plus que le problème viendrait si les protéines PAR ne se localisent pas au bon endroit. Si les protéines PAR sont un peu partout, elles vont permettre d'attirer d'autres protéines. Mais si elles sont un peu partout, elles ne vont pas attirer les protéines cibles au bon endroit. Et à terme, ça ne va pas permettre de générer une division adéquate pour la situation.
Ok, c'est comme des protéines aimants. Et pour que ça fonctionne, il faut que l'aimant il soit d'un côté.
Exactement.
De la cellule œuf. Et s'il y a de l'aimant partout, ça fout le...
Ouais, exactement, c'est ça.
Et on sait ce qui fait que les protéines PAR sont localisées à un endroit ou à un autre de la cellule œuf?
Donc ça, c'est toujours un peu la question de la poule ou l'œuf. Ouais. C'est vrai que c'est sûrement dû à d'autres protéines qui régionalisent ces... ou peut-être pas d'autres protéines, mais à peut-être une signalisation particulière qui les amène à une région de la membrane de la cellule. Mais dans ce que je connais, le premier événement, c'est la localisation des PAR. Il faudrait que je me renseigne sur qu'est-ce qui cause la régionalisation des PAR.
Alors, spoiler, c'était justement un des sujets des examens où Elisa a eu...
Ah bah c'est ça,
alors. Mais Elisa ne se souvient pas de son examen, alors. D'il y a 8 ans, non, c'est pas 8
ans. Non, mais c'est pour dire, en fait, donc c'est un enseignement qui existe depuis des années et des années. Il y a un chercheur assez connu qui s'appelle Lionel Pintard et qui est dans mon institut, qui justement cherche à essayer de toujours remonter le plus loin pour savoir quel est l'événement qui permet la répartition de ces aimants par là. Et bah, on n'a pas une idée complète de l'histoire, c'est sûr.
C'est vrai que d'ailleurs, ces protéines PAR sont retrouvées chez d'autres espèces, comme par exemple les mouches du vinaigre, Drosophila, chez elles, servent à contrôler la division asymétrique lors de la formation du système nerveux. Donc évidemment, là, je mentionne que le recrutement local de protéines comme moyen de réguler les modes de division, mais dites-vous qu'il y a plein d'autres moyens et que je ne vais pas tout citer aujourd'hui. D'ailleurs, il peut même y avoir des cas où la cellule ne fait rien et que le mode de division est régulé par l'environnement de sa niche. Donc ça, c'est complètement différent.
Mais là, du coup, c'est...
Attends, donc ça veut dire... Ouais, vas-y, nickel.
Ouais, je l'ai mis dans un temps d'attente parce que je savais que...
Là, non, mais d'accord, c'est dans le cas de cellules souches.
Oui.
Pas du tout, ok. Donc là, c'est pas dans le cas de l'embryogenèse ou de la formation du système nerveux, c'est vraiment... Même dans le corps humain, il y a des fois où il y a des situations où c'est vraiment la niche.
Exactement,
qui va avoir un impact, c'est-à-dire qui va choisir entre guillemets, mais qui va avoir un impact sur le processus sur cette asymétrisation de la division.
Exactement, donc en fait la cellule elle est dans son petit environnement tranquille, donc dans cette niche, et parce que parfois dans cette niche elle va être plus en contact avec certains éléments, quand elle va se diviser il va y avoir une position différentielle entre les deux cellules par rapport à cette niche, et c'est donc la niche qui va être à l'origine de la création d'une cellule d'un destin différent.
Et quand on parle de niche, est-ce que c'est nécessairement des cellules autour, ou est-ce que ça peut être au contraire juste genre de la gelée particulière?
Ça peut être... Non, c'est pas forcément une attache directe à des cellules, ça peut être la matrice que justement produisent les cellules, ça peut être plein d'autres choses. Ou ça peut être aussi par exemple les vaisseaux sanguins, la présence plus ou moins rapprochée de tissus graisseux, voilà.
Ouais, donc en fait, selon l'environnement dans lequel se trouvent ces cellules, on peut imaginer qu'il y a des messagers chimiques ou biochimiques qui vont aller stimuler les cellules différemment, c'est ça ?
Exactement. Et souvent, du coup, c'est difficile de savoir quel est l'impact de...
Et puis, sachant que là, du coup, on est d'accord, les différences... par exemple, si on prend une usine qui a une concentration d'un messager chimique comme dit Irène, la différence entre les deux cellules, elle est infime, parce que c'est quelques micromètres, entre guillemets, d'écart entre les deux cellules. Donc c'est vrai que c'est des différences de concentration potentiellement qui sont minuscules et pourtant ça suffit à avoir un impact sur la division et sur le devenir de ces cellules.
Oui, après ça va être souvent les récepteurs qui vont être sur la cellule, qui vont directement interagir avec potentiellement d'autres des cibles de la niche. Et donc dans ce cas-là, on ne parle pas d'un gradient chimique, mais on parle vraiment de contact, de contact direct.
D'accord.
Ok, donc je vois que vous commencez à maîtriser un peu le contexte. Donc, j'aimerais mentionner quelque chose d'important sur l'aspect technique de ces découvertes. Il faut comprendre qu'il y a deux façons de regarder si une division est symétrique ou asymétrique. On peut regarder la répartition, l'organisation des molécules lors de la mitose, mais on peut aussi regarder ce qu'il se passe après la division en analysant le destin des cellules filles qui résultent de la division. Si on a deux cellules filles avec des destins différents, c'est asymétrique. Et si elles ont le même destin, c'est symétrique. C'est de cette idée qu'est née deux notions qui sont souvent d'ailleurs mélangées un peu dans la littérature, la notion de division et de destin asymétrique.
Pour résumer ça, donc une division asymétrique, ce serait une division dans laquelle les molécules qui sont dans chacune des cellules filles sont différentes.
Oui, pas que les molécules, ça pourrait être potentiellement par exemple des organelles, plus de mitochondries dans la cellule A que dans la cellule B, plus des ARN, mais par exemple il y a certaines autres pistes comme l'ADN qui pourraient être différentiellement ségrégées, ou pas seulement que des molécules, il y a molécules organelles.
Mais donc en gros c'est une différence de composition, la division asymétrique pure. Et après, le destin, eh ben, c'est différent. C'est ce que deviennent ces cellules-là.
Exactement. Le destin, c'est plus quand on va parler de l'aspect fonctionnel de la cellule. On pourra y revenir, mais moi, personnellement, je pense que la symétrie n'existe pas. Deux cellules...
Scandale.
Et là, les matheux en PLS, on a bien fait de ne pas inviter Robin, parce que disons...
Déjà qu'il y avait une sorte de multiplication de division tout à l'heure, là, on parle de rupture de symétrie...
La symétrie n'existe pas, c'est ça la phrase.
Donc, quand je dis là, plus loin, symétrie, c'est-à-dire que deux cellules qui seraient exactement pareilles, bah, ça n'existe pas en fait. On n'a pas, lors d'une division, deux cellules qui ont le même nombre d'ARN, le même nombre de mitochondries. Donc, il y a toujours une différence potentielle, voulue ou non, par des mécanismes vraiment déterminés ou non, entre les deux cellules. Est-ce qu'après, ça génère des destins cellulaires différents, on peut en reparler plus tard.
Mais donc on va dire la symétrie cellulaire n'existe pas pour éviter que les matheux fassent une syncope.
Alors moi je suis pas d'accord, je pense que Robin serait tout à fait d'accord avec Lisa dans le sens où il dirait qu'il y a que les matheux qui auraient le droit de parler de symétrie.
Tout le monde est d'accord
dans
finalement.
Ce cas, on est tous
voilà, tout va bien.
Impeccable.
Bravo Pascal.
Pour terminer, enfin pour avancer dans cette partie un peu pratique de ce sujet, dans les deux cas, pour analyser ça, dans les cas de division ou de destin asymétrique, on peut utiliser des approches statiques, figées dans le temps et dans l'espace, ou des approches dynamiques, permettant de suivre l'enchaînement des processus cellulaires. Les deux méthodes ont des avantages et des inconvénients et apportent plusieurs degrés de précision. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que si vous choisissez une approche figée, et que vous voulez regarder les mécanismes lors de la mitose de la cellule, bah, il n'est pas possible de savoir ce qu'auraient donné les deux cellules filles en tant que destin cellulaire. C'est un peu comme si vous étiez en train de cuisiner un soufflé au fromage et que vous savez qu'il faut 7 heures de cuisson pour avoir le soufflé parfait, sauf qu'au bout de 3 heures, bah, vous avez envie de savoir s'il est déjà cuit ou non. Vous plantez un couteau dedans. En faisant ça, vous allez pouvoir savoir s'il est cuit ou non, probablement que non. Mais comme vous avez stoppé la cuisson et que vous avez fait un trou dedans, le soufflé est raté.
C'est très clair.
Ouais, sauf que 7 heures,
ça me rassure pas trop. Voilà, ça me rassure pas trop sur tes compétences culinaires parce que.
Un fromage, il faut une heure, quoi.
Ah oui, non, mais vraiment, zéro idée de ce genre de truc.
L'analogie est réussie, ouais.
Oui, je ne suis pas très bonne en cuisine.
Non, non, mais on ne va pas te dégonfler comme ça.
Oh, oh là là.
Donc, si chez les invertébrés, il a été plus facile de déterminer les mécanismes responsables des divisions et des destins asymétriques et symétriques des cellules, chez les vertébrés, c'est beaucoup plus complexe. C'est très largement à cause de problèmes techniques. Par exemple, c'est super difficile d'accéder aux différentes niches des cellules souches dans les vertébrés, mais aussi, il y a peu d'outils génétiques qui permettent de suivre des cellules souches au fur et à mesure des divisions directement dans l'organisme des vertébrés. D'ailleurs, et on l'a mentionné tout à l'heure, malgré de nombreuses études sur le sujet, il est parfois difficile de démontrer clairement qu'un événement asymétrique en mitose cause directement un destin cellulaire asymétrique entre deux cellules filles. Vous pourriez, par exemple, avoir plus d'une molécule dans la cellule A que dans la cellule B au moment de la mitose, mais finalement, avoir deux cellules avec le même destin cellulaire.
Pour être sûr de bien comprendre, attends, ce que tu dis, Lisa, c'est parce que tout à l'heure, on disait que on peut pas avoir potentiellement de vraie symétrie parce qu'il y aura toujours des petites variations.
Exactement.
Et que donc, ça peut amener à des destins cellulaires différents. Mais là, il y a aussi la situation un peu inverse où on peut avoir des différences mais qui conduisent au même destin. C'est ça, hein ?
Donc, oui. Oui, en fait, on peut avoir toutes les combinaisons, en fait. On peut avoir, pendant la mitose, des choses différentes qui se passent dans la cellule, dans la future cellule A et dans la future cellule B, pendant la mitose, quand elles sont encore un peu attachées. Et finalement, ces différences ne causent pas des destins cellulaires différents. Et on peut avoir des choses similaires qui se passent, même si on garde en mémoire que c'est jamais vraiment complètement similaire. Et là, ça donne des destins similaires.
Ouais, donc ça fait un peu arbitraire comme...
C'est pas arbitraire dans le sens où certains signaux qui sont différentiellement ségrégés lors de la mitose peuvent avoir une action directe sur les gènes impliqués dans le destin cellulaire de la cellule. Et dans ce cas-là, on va avoir littéralement une cascade de mécanismes qui vont engager la cellule vers un destin spécifique.
Si on reprend par exemple les protéines PAR dont nous parlait Lisa, si tu la mets d'un pôle et tu le déplaces dans l'autre pôle, c'est pas le même destin.
D'accord.
C'est vraiment hyper crucial pour déterminer le destin de la cellule A et de la cellule B.
Exactement.
Mais si tu prends une mitochondrie, tu t'en rajoutes une dans la future cellule A et l'autre en a une de moins,
ouais.
On s'en bat les steaks, comme on dit.
Même si, par rapport aux mitochondries, il a été montré, par exemple, dans le milieu dans le système du muscle, que souvent, si on a plus de mitochondries dans la cellule B, cette cellule B va vouloir plus se différencier que la cellule A. Ça va avoir un impact sur le métabolisme de la cellule, parce que ça a un impact sur le métabolisme de la cellule et ça va participer à sa différenciation.
Ouais.
C'est clair. Mais donc, pour revenir, le deuxième exemple que tu as dit, qui était vraiment, à mon avis, surprenant, c'est que si tu as quelque chose qui est pratiquement pareil entre deux cellules, tu peux quand même avoir un destin différent. Et là, j'imagine que c'est ce que tu nous expliquais vis-à-vis de la niche.
Exactement. On pourrait avoir une division classée comme symétrique lors de la mitose, sans apparente ségrégation différentielle. Mais parce que la niche va avoir une influence sur la cellule A et pas sur la cellule B, finalement, on va avoir deux destins différents.
Ok.
Et là, je renvoie donc les auditeurs à un autre épisode qu'on a enregistré qui s'appelle « La philosophie des cellules souches ». Et dans lequel j'avais encore une fois recruté quelqu'un de mon entourage pour participer à Podcast Science, et qui nous expliquait justement tous ces aspects de Lucie Laplane, et c'est l'épisode 417, tous ces aspects dans lesquels la niche autour de cellules, elle s'intéresse plutôt aux cellules cancéreuses, peut vraiment avoir un impact sur la détermination de ce que c'est qu'une cellule cancéreuse ou pas. Donc je renvoie ça et on mettra dans les notes de l'émission.
Le travail acharné de plusieurs équipes a néanmoins permis la mise en évidence des modes de division de cellules souches musculaires, neuronales et sanguines chez la souris et le poisson. Le système que mon laboratoire et moi-même utilisons pour étudier les divisions des cellules souches est le muscle. Que ce soit chez la souris ou l'humain, le muscle est constitué de fibres musculaires sur lesquelles sont présentes des cellules souches musculaires. Quand le muscle se régénère, donc après une petite lésion par exemple, ou carrément une morsure de serpent, dans ce cas-là, ça flingue toutes les fibres. Les cellules souches musculaires...
Tu fais un peu excrème, Lisa.
C'est très précis quand même, hein, comme exemple.
Je dis ça, mais ce n'est pas complètement désintéressé, car en fait, dans le milieu du muscle, quand on étudie la régénération, on injecte une toxine de serpent, et ça tue toutes les fibres. Et après, on regarde ce qui se passe.
Moi, je retiens cette phrase « dans le milieu du muscle
». Moi, je retiens qu'on ne casse pas un tout petit peu dans ce cas-là, on détruit tout, en fait.
Mais là, c'est le gros couteau dans le soufflet.
Ouais, complètement. Franchement, c'est...
Le manteau est complètement déchiré, là.
Est-ce que les chercheurs et les chercheuses du milieu du muscle, ils sont tous... Non ?
Ouais, c'est Thibaut Echey.
Non, malheureusement, ce n'est pas trop le cas, mais... Donc, quand ils se régénèrent, les cellules souches musculaires sortent de quiescence, s'activent, prolifèrent, migrent énormément le long des fibres abîmées et se différencient pour enfin fusionner entre elles et générer de nouvelles fibres musculaires.
Alors là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut surprendre quand même les gens, c'est de parler de fusion cellulaire pour les muscles. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus ?
C'est vrai que ça peut surprendre, mais lors de leur différenciation, ces cellules souches musculaires... Elles fusionnent ensemble, et ça va former des énormes cellules qu'on va appeler fibres, qui vont être ce qu'on appelle polynucléées, parce qu'elles ont fusionné, tous les noyaux qui étaient à l'origine dans les cellules individuelles se retrouvent tous ensemble dans la fibre, et ça fait une énorme cellule appelée fibre polynucléée.
Tu peux nous donner à peu près une taille de fibre musculaire, je sais pas.
C'est très variable en fonction de la zone du corps. Donc, je vais parler de la souris parce que c'est vrai qu'au niveau de l'humain, j'ai pas trop de référence. Moi, par exemple, je travaille sur les muscles du pied et la longueur de ces fibres, c'est environ plusieurs centaines de microns. C'est 4 fois plus grand si on regarde les fibres du muscle du tibia. C'est tout petit, les plus petites fibres qu'on étudie nous au labo, c'est les fibres qui sont dans les muscles des yeux, les extraoculaires moteurs.
Et dans les, par exemple, les fibres des pieds, enfin du muscle des pieds, il y a combien de cellules, de cellules souches qui fusionnent pour former une fibre en moyenne ? C'est quoi ? C'est 5, c'est 10, c'est 20 ?
Je dirais entre 50 et 70.
Oh waouh !
Ok, j'étais pas du tout dans le bon ordre. Ok, d'accord, entre 50 et 70.
Ah ouais. Parce que ça, c'est basé sur si par exemple, après j'isole une fibre du muscle du pied et que je regarde le nombre de noyaux, j'en vois environ 50 et 60 à 70. C'est variable en fonction aussi de la région du muscle, mais c'est un autre ordre d'idée. À chacun des stades dans lesquels ces cellules sont du moment de la sortie de quiescence à la fin de la différenciation, les cellules vont exprimer des gènes particuliers permettant de savoir donc dans quelle phase elles sont. Pour n'en citer que deux, les cellules souches expriment le gène très, très connu dans le domaine du muscle, PAX7, pour en anglais Protein Paired Box 7, et les cellules différenciées expriment le gène appelé myogénine. Donc, en utilisant ce modèle, en utilisant ces gènes qu'on connaît bien, mon laboratoire a pu montrer les différents modes de division. Ils ont pu voir que les cellules souches musculaires font entre 15 à 25%, ça dépend des modèles, où est-ce qu'on regarde, de division asymétrique, et le reste, c'est des divisions symétriques. Aussi, et de façon intéressante, ils ont vu que les cellules ne sont pas bloquées dans un seul mode de division. Quand elles choisissent de faire une division asymétrique, par exemple, elles ne sont pas condamnées toute leur vie à faire des divisions asymétriques. Elles peuvent alterner, switcher entre modes asymétrique, symétrique, asymétrique. Et c'est intéressant parce que dans le dogme connu des invertébrés, on avait en tête qu'une cellule souche qui faisait une division asymétrique donnait tout le temps des divisions asymétriques.
Et donc ça, c'était plutôt chez la drosophile et j'imagine chez le petit ver.
Exactement.
Okay. Alors, pour résumer, ça veut dire que une cellule qui se divise et fait par exemple deux divisions jaunes, donc pour faire des cellules souches, en division symétrique, peut-être que les cellules souches qui vont être produites, à un moment, elles vont donner une cellule souche et une cellule différente. C'est ça que tu veux dire.
Exactement. Okay. Faut imaginer un arbre de hiérarchie de cellules.
Ouais.
On a une cellule mère en haut de la hiérarchie, elle se divise, elle donne deux jaunes. Et puis après, il y a une jaune qui peut diviser et donner, pourquoi pas, deux rouges. La jaune sœur de la première pourrait donner une jaune et une rouge. La seule règle dans ce jeu-là, c'est que quand on est une cellule différenciée, on ne se divise pas. Et quand je dis ça, je mens un petit peu, parce qu'en fait, on peut faire au moins une division. Mais quand on décide de se différencier, on sort du cycle cellulaire et on arrête de générer d'autres cellules.
D'accord.
D'autres laboratoires que le mien ont décrit que dans la myopathie de Duchenne, qui est une maladie des muscles, les divisions asymétriques sont affectées. Pour faire court, la myopathie de Duchenne est une maladie génétique dégénérative qui affecte en premier lieu l'état des fibres musculaires. Elle affecte une naissance masculine sur 3500 et cause des déficiences motrices, respiratoires et cardiaques, diminuant l'espérance de vie à 20-30 ans. Il n'y a pas de traitement curatif optimal pour cette maladie, donc comprendre le comportement des cellules souches est crucial pour développer de nouvelles thérapies. Ce qui a été décrit dans cette maladie, c'est que lorsque les cellules souches s'activent lors de leur première division, qui est censée être asymétrique, elles ont certains problèmes et cette division asymétrique est affectée. Résultat, il y a trop de cellules souches et pas assez de cellules engagées vers la différenciation.
Pourquoi tu dis qu'elle doit être asymétrique, hein ? J'ai raté quelque chose.
C'est pas qu'elle doit être, c'est que il a été montré que dans un cas sain, sans être malade, la division de cellules souches qui sortent de quiescence est souvent asymétrique. Donc, ces travaux donnent l'état de ce qui se passe au début, pendant l'activation, après l'activation des cellules souches, mais ces travaux ne donnent aucune explication de ce qui arrive aux cellules après, lors de toutes les divisions consécutives jusqu'à leur différenciation.
Alors, juste pour que je perçoive bien, cette activation dont tu parles, elle est générée par des lésions ou c'est classique en fait, dans le développement naturel, il y a des moments où ça s'active.
Donc non, normalement ces cellules souches dans le muscle chez l'adulte, elles sont bien protégées dans leur niche et elles sont protégées par énormément de signaux qui vont maintenir leur état quiescent. Et en fait, parce qu'on va avoir par exemple une blessure, il suffit qu'un seul de ces signaux, il y en a une vingtaine, plus d'une vingtaine, il suffit qu'un seul de ces signaux soit brisé pour que l'ensemble des mécanismes qui permettaient de maintenir la cellule en quiescence soit brisé. Et à partir de là, la cellule va se réveiller et commencer son activation et vouloir rentrer dans le cycle cellulaire et se diviser.
Alors, je vais peut-être poser une question naïve, mais aberrante. Si on mettait des personnes qui sont atteintes de la myopathie de Duchenne dans des cocons pour avoir zéro lésion, ils pourraient avoir une meilleure espérance de vie. C'est pas souhaitable, non, mais
Alors, malheureusement, non, parce que, en fait, la dégénération du muscle, elle est un peu intrinsèque, même si on leur demandait de quasiment pas bouger. Elle est un peu intrinsèque à leur muscle, parce que, et je ne l'ai pas précisé, mais cette maladie, elle est liée à la mutation d'un seul gène, le gène dystrophine, qui est le plus long gène du génome, qui va permettre de maintenir l'intégrité de la fibre musculaire. Et à cause d'une mutation dans ce gène-là, il n'est plus du tout produit. Et cette protéine dystrophine, qui n'est pas là sur les fibres, leur cause une fragilité énorme. Et à cause de ça, on a donc une dégénération musculaire. Et en parallèle de ça, certaines équipes ont montré que les cellules souches aussi présentaient des problèmes.
Ok, d'accord. J'ai pas guéri la myopathie du gène, merde.
Non, mais franchement, c'était bien essayé.
C'était une bonne idée, hein, Topo.
Ah oui, super. Personne ne l'avait eu, en plus. De mettre des gens dans des bibins d'hommes, tu vois.
Donc, comme je disais, ces travaux ne permettent pas de savoir ce qui se passe pour l'ensemble des divisions consécutives jusqu'à la différenciation terminale. Donc, pour étudier ça, mon équipe et moi-même avons développé un système permettant l'étude dynamique des cellules souches. Pour ça, on isole des fibres musculaires de souris avec leurs cellules souches associées. Ensuite, on va les filmer pendant 3 jours grâce à des microscopes haute résolution. Et grâce à ces films, pendant ces 3 jours, on peut suivre jusqu'à 4 à 5 divisions consécutives jusqu'à leur différenciation. en observant chaque division, en observant à chaque division si les cellules expriment ou non la myogénine, ce marqueur de différenciation dont je vous ai parlé, on peut alors analyser si les divisions sont asymétriques ou symétriques pour ces marqueurs de destin cellulaire.
Pour, si vous êtes un peu en mode reportage et vous suivez un peu en direct ce qui se passe, c'est ça, hein, dans ces cellules-là, et puis vous regardez, ah, myogénine, pas encore, ah, ça arrive.
Exactement.
D'accord.
Faut quand même qu'on clarifie à quoi ça ressemble. Pour faire ces films, qu'est-ce que okay. tu fais concrètement?
Alors, donc, imaginez une souris. Moi, je m'intéresse aux muscles de son pied parce que les muscles de ce, les fibres de ce muscle, qu'on appelle flexor digitorum brevis, FDB, sont très petites et assez résistantes. Et ça me permet de pouvoir les isoler manuellement avec une pipette. Je vais isoler manuellement chaque fibre musculaire sur lesquelles sont attachées les cellules souches dans une plaque qui est composé de plein de tout petits puits. En tout, il y en a 900. Donc imaginez, moi, le soir, au labo, à 9h, isoler manuellement des centaines et des centaines de petites fibres musculaires dans des puits pour pouvoir ensuite placer cette plaque dans un microscope et pouvoir, pendant 3 jours, imager ce qui se passe.
Pour nos auditrices et auditeurs, c'est très facile d'imaginer Lisa dans son labo, puisqu'elle enregistre depuis son labo. On a l'image, donc faut imaginer. Voilà, c'est ça la recherche, c'est des gens qui restent à 21h16
ah oui, ouais.
au labo pour pouvoir isoler 900 fibres
oui.
individuelles.
900 fibres individuelles, ça peut varier de l'expérience que je veux faire, mais en moyenne plusieurs centaines de fibres pour être sûr qu'à la fin j'ai bien au moins une centaine analysable et pour analyser tous les événements que je veux.
Quand tu parles de puits, c'est des plaques en plastoc?
Exactement.
Avec des petites cuvettes comme ça?
Exactement. Donc comment je pourrais expliquer ça? En fait, c'est une plaque en plastique. Dans laquelle, avec, vous savez, le silicone qu'on utilise pour faire des moules pour les petits.
Pour les quoi?
Des moules pour ou des une espèce de pâte à modeler en fait. Non mais je suis
d'accord.
Honnêtement, mon PhD est sponso par ces trucs là parce que c'est littéralement c'est quelque chose qu'on achète dans les magasins de jouets pour enfants.
D'accord. Okay.
Mais les cellules l'aiment beaucoup et c'est pas du tout réfractaire à leur croissance. Donc en fait, c'est une espèce de pâte à modeler qu'on prend. Et on va faire des petits trous dedans. Et ces petits trous vont permettre de recevoir les petites fibres musculaires que je vais mettre dedans. Et donc grâce à ça, les fibres, elles vont être un peu bloquées dans ces petits trous. Mm-hmm. Et je vais pouvoir faire des films de ces fibres pendant 3 jours.
Au microscope.
Et en fait, pour vous donner une idée de à quoi ça ressemble, imaginez une longue tige, la tige c'est la fibre, sur laquelle il y a des petites cellules. Au début de mon film, souvent il y en a une, voire deux. Et au fur et à mesure, elles vont se diviser, migrer tout le long de la fibre, et je vais pouvoir voir une division, deux divisions, etc.
Donc la fibre, c'est les cellules qui ont fusionné, là, les cinquantaines, soixante-dizaines de cellules qui ont fusionné pour donner une fibre musculaire qui est donc bien différenciée. Mm-hmm. Et en pipetant tes fibres, mm-hmm. tu as réussi à récolter aussi des petites cellules souches.
Exactement, qui sont collées à la... qui sont ouais. attachées, je dirais. C'est pas très précis de dire ça, mais elles sont attachées à leurs fibres. Mm-hmm. Et en s'activant, en migrant, elles vont progressivement... se déplacer, se diviser, se différencier.
Et tu utilises juste de la microscopie optique ou qu'est-ce que...
Donc, j'utilisais tous les types de résolution microscopique pour aller dans les... que ce soit des microscopes à lumière blanche ou des microscopes qui utilisent des lasers et qui permettent une résolution un peu plus grande. Je peux vraiment observer des micro-détails, comme par exemple les toutes petites projections que les cellules peuvent faire quand elles se divisent ou quand elles se touchent, par exemple.
Et tu utilises des marqueurs ou c'est juste des marqueurs fluorescents ou...
Alors, dans mon modèle, j'utilise des souris qui sont transgéniques. Et ça me permet d'avoir des cellules qui... exprime d'elle-même des marqueurs fluorescents. Mmh. Donc, quand par exemple ce gène intéressant myogénine est exprimé, la cellule devient rouge parce que on a collé à ce gène myogénine, on lui a collé un petit rapporteur rouge, ce qui permet qu'une fois exprimé, la cellule exprime une molécule fluorescente rouge. Et en autre système, mais que j'aborde juste parce que c'est quand même un peu stylé, ce qu'on fait aussi maintenant, c'est que en plus d'avoir développé ce setup dans des boîtes, ce qu'on fait maintenant, c'est d'observer la régénération directement dans le muscle. Donc on va ouvrir la peau, et toujours avec des marqueurs génétiques qui permettent d'avoir des couleurs un peu là où on veut, les cellules souches vont être d'une couleur, les fibres d'une autre couleur, on va ouvrir la peau et filmer directement dans le muscle. Ça va permettre de capturer au mieux toute la complexité de ce qui peut se passer in vivo.
C'est dingo.
Ah ouais, non, vous fabriquez des souris qui sont multifluorescentes, donc.
Oui, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe devant le microscope, il se demande si on n'est pas un peu fou. Mais...
Ouais. Oui, ça veut dire que tu amènes une souris au microscope.
Ouais, ouais. Et... mais je tiens à préciser, pour ne pas me faire taper sur les doigts demain, que pour pouvoir faire ça, on est soumis à d'énormes protocoles éthiques qui nous permettent de réaliser toutes ces expériences en maintenant le bien-être de la souris.
En essayant de maintenir le bien-être de la souris.
Donc, je précise que par exemple, quand on ouvre la peau pour mettre une souris au microscope et regarder sa régénération, elle est sous anesthésiant, sous antidouleur, elle ne se réveille pas pendant la chirurgie, et à la fin de l'expérience, elle est tuée.
Ah, ça finit. T'as commencé très bien.
C'est dommage, il y avait une bonne, une bonne vibe.
C'est clair.
Ça parlait soufflé, ça parlait team voilà. Muscle, et là, paf.
Et à la fin, dans le mixeur.
Non, mais je vais pas me mettre à 12.
J'avoue que je m'y attendais pas.
Moi non plus.
Mais c'est ce genre de recherche qui nous permettent de faire de vraies avancées, parce que c'est vrai que le modèle invertébré, c'est génial,
ouais.
Mais les systèmes plus, je dirais pas complexes, parce que je vais mettre à dos tous les drosophilistes, tous les adeptes de Célégance, mais on a besoin d'étudier des modèles vertébrés comme la souris pour pouvoir...
Rien que les fibres musculaires, ça n'a rien à voir.
Complètement,
en fait,
hein. Exactement, voilà. Complètement. On a besoin de travailler sur la souris, ouais, parce que c'est plus facile de travailler sur la souris que d'ouvrir la jambe d'un patient dystrophique.
Non, mais on rigole, mais ici, je pense qu'à Podcast Science, on est tous persuadés qu'on est bien obligés, de toute façon.
Non, mais j'ai ça aussi pour les personnes qui peuvent nous écouter.
Oui, bien sûr.
Parce que je sais qu'il y a toujours des gens qui sont très...
Bah, déjà, il y a des matheux.
Voilà.
Donc, il faut leur expliquer.
Déjà que les matheux ne viennent pas depuis le début, là, avec mes divisions et multiplications. L'entièreté de mes travaux... mais je suis pas seule à travailler là-dessus, je suis beaucoup aidée par mon laboratoire, ont montré que, en utilisant ce système, le problème vient des divisions symétriques. En fait, en s'engageant massivement vers la différenciation, on voit que les cellules souches sont presque toutes envoyées vers la réparation du tissu et s'épuisent beaucoup plus. Après 3 jours, les cellules souches malades sont quasiment toutes différenciées, et comme une fois différenciées, les cellules ne peuvent quasiment plus diviser, globalement, il y a beaucoup moins de cellules produites comparé à un cas sain. On peut penser que cette perturbation participe à la gravité de la maladie. Donc, ok, jusqu'à là, je vous ai dit que lors de leur différenciation, les cellules musculaires font beaucoup trop de divisions symétriques en se différenciant, donc elles finissent par s'épuiser. Et maintenant, vous allez me demander, ok, mais à cause de quoi ?
À cause de quoi ?
Je peux être assez rapide. J'ai raté la blague.
Donc, c'est ce qu'on s'est un peu demandé aussi avec mon équipe il y a un an. Et on a cherché à savoir si ce qu'on voyait, c'était dû à la cellule elle-même ou à son environnement. Ici, la fibre musculaire. Pour répondre à cette question, on a développé un modèle assez unique permettant de, dans le milieu du muscle, permettant de greffer des cellules souches saines sur des fibres malades et des cellules malades sur des fibres saines. Grâce à ça, et un an de larmes et de mise au pont, on a pu démontrer que dans un environnement sain, les cellules malades continuent d'avoir des divisions perturbées. Inversement, dans un environnement malade, les cellules souches saines s'en fichent et se divisent parfaitement bien.
C'est ouf. Donc attends, là, vraiment pour vraiment retracer ce que tu fais, tu prends, tu isoles tes fibres, tu arrives à débarrasser ces fibres de cellules souches et ensuite de rajouter des cellules souches.
Alors, pas complètement, dans le sens où je ne débarrasse pas complètement les fibres de leurs cellules. Je dirais, de leurs cellules qu'elles ont à l'origine.
Naturellement associées.
Naturellement, exactement. Ouais. Mais les cellules que je leur rajoute, je vais pouvoir les distinguer des cellules naturelles parce qu'elles vont être colorées via un marqueur fluorescent. Donc, on va avoir, par exemple, des fibres avec des cellules, on va dire, transparentes à l'œil nu, sur lesquelles on va rajouter des cellules qui vont exprimer un marqueur jaune, par exemple.
D'accord. Donc, t'es pas capable de te débarrasser de ces fameuses cellules d'origine, mais tu rajoutes, toi, des cellules différentes.
Je suis capable de les enlever, mais en faisant ça, je risque d'abîmer la fibre en elle-même.
Qu'est-ce que tu aurais comme protocole pour te débarrasser de ces cellules, en gros ?
On va rajouter des petites enzymes qui vont, pour isoler les fibres. Donc, le muscle, c'est composé de plusieurs fibres. Pour pouvoir isoler les fibres les unes, on va utiliser une solution qui contient des enzymes qui vont couper, en fait, cet attachement des fibres. Et si par exemple j'augmentais le nombre d'enzymes que je mettais dans cette solution, ça permettrait potentiellement de décrocher aussi les cellules souches qui sont sur ces fibres, mais on ne veut pas vraiment faire ça parce que ça abîmerait quand même plus la fibre, sachant que dans la myopathie du chêne, les fibres sont déjà assez endommagées. On n'a pas vraiment envie de complexifier l'histoire.
Oui, on peut penser aussi que rien que d'ajouter des enzymes, ça perturbe déjà vachement le système, en fait.
C'est vrai, et c'est pour ça qu'en biologie, en règle générale, on a toujours besoin d'avoir un contrôle.
Ouais.
C'est-à-dire que, en parallèle de mon expérience, par exemple, dans cette manip de transplantation, ce que j'ai pu faire, c'est de transplanter des cellules saines sur des fibres saines, pour être sûr que cette manip de greffe en elle-même n'allait pas affecter le comportement de mes cellules.
Ouais, c'est ton contrôle, quoi.
Exactement, tout est prévu.
Et tu pourrais pas avoir un système dans lequel les cellules souches, tu pourrais leur avoir une sorte de code d'autodestruction plutôt que d'utiliser des enzymes ?
Si, c'est complètement possible. En utilisant des systèmes génétiques, on peut permettre de générer une mort cellulaire. On peut aussi dire si on peut dicter cette mort cellulaire à un temps précis ou à un lieu précis. C'est possible. C'est pas ce qu'on a fait par raison de temps, je dirais.
D'accord. Ok. Ce sera pour le prochain
prochaine
thèse.
Donc, c'est vrai que c'était la première fois que dans le milieu, on arrivait vraiment à découpler l'impact des cellules, de leurs fibres musculaires, et de comprendre que dans ce cas-là, le destin des cellules souches, il est indépendant de la fibre. Et c'est important de faire ce genre de travaux parce que les gens du domaine se focalisent souvent sur les divisions asymétriques, parce que c'est beau et conceptuellement très élégant. Pourtant, en plus du fait que la division asymétrique reste minoritaire, elle ne permet qu'une croissance linéaire de la population, alors que les divisions symétriques qui peuvent, en une division à chaque fois, générer deux cellules similaires permettant soit la croissance, soit la réduction exponentielle du tissu, sont beaucoup plus fortes pour la dynamique de la population. On pense que, globalement, ces résultats pourraient être transposables à d'autres systèmes dans lesquels les cellules souches sont impliquées. Pour finir ce podcast, j'aimerais, parce que je pense que je ne l'ai pas assez fait, j'aimerais vous faire réfléchir en vous présentant quelques paradoxes. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de mes cellules, donc l'analogie de cellules jaunes et rouges, soit souches, elles sont jaunes, soit rouges, elles sont différenciées. Eh bien, il y a une question très simple qui n'a jamais été posée dans le milieu, c'est est-ce que la cellule jaune produite lors d'une division asymétrique est la même que la cellule jaune produite lors d'une division symétrique. En d'autres termes, est-ce que le fait d'avoir une cellule sœur rouge différenciée lors d'une division asymétrique affecte-t-il le comportement de la sœur jaune? Si c'est le cas, est-ce qu'on peut toujours considérer que la cellule souche produite par une division asymétrique est toujours souche et tout aussi fonctionnellement importante ou capable? Voilà, je vous laisse cogiter là-dessus.
Alors moi, je pense qu'il y a des bonnes cellules jaunes et des mauvaises cellules jaunes. Les bonnes cellules jaunes, c'est les cellules qui sont, tu vois, genre jaunes.
Mais c'est comme ça.
Et les mauvaises cellules jaunes, c'est... elles sont jaunes, mais elles sont quand même mauvaises.
C'est un peu déviante, c'est ça.
Je dirais ça dans la fin de ma thèse.
Non, mais c'est comme si une des cellules devenait jouer un peu le rôle de l'environnement, finalement, avait un impact sur l'autre cellule.
On pourrait se demander, est-ce que c'est, ça peut être le cas, est-ce que cette cellule qui se différencie va affecter cette autre cellule.
Il y aurait
plein de façons de répondre à cette question, mais c'est vrai que c'est assez complexe. C'est déjà de capturer cet événement de division asymétrique, c'est un événement rare. D'attendre que la cellule qui n'est pas différenciée se divise et d'analyser cette division, c'est quelque chose de très complexe. Moi, dans la suite de ma thèse, c'est une des questions à laquelle j'aimerais répondre.
Et ton intuition de chercheuse, c'est quoi?
Eh bien, parce que mon chef m'a toujours dit que l'intuition, ça vient... Bon, peut-être qu'il m'a peut-être pas dit ça, mais... mais parce que c'est vrai que il faut que je me tienne souvent aux faits. Je pourrais répondre plus en disant que pour l'instant, ce qu'on essaye de faire, c'est de mesurer la probabilité de division de la cellule jaune qui ne se différencie pas et de la comparer à la probabilité de division des jaunes qui viennent des divisions symétriques.
Ça, je pense que c'est une question, une manière polie de dire que c'est une question de merde.
Non, mais non. Non, en soi, c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, c'est parce que ta sœur s'est différenciée que toi, tu vas être un peu différente et que forcément, tu vas avoir une identité peut-être un peu plus biaisée vers la différenciation. C'est vrai que l'intuition pourrait nous faire dire que c'est sûrement le cas, mais le contraire est tout aussi excitant parce que ça permettrait de montrer que malgré l'environnement et l'histoire de la famille, le destin cellulaire est propre à la cellule.
Ouais, moi j'aurais eu l'intuition inverse en fait. Si ta cellule sœur s'est différenciée, c'est peut-être parce qu'elle a pompé toutes les ressources pour la différenciation à elle et que c'est plus possible pour toi avant au moins plusieurs cycles de division quoi.
Les intuitions.
Je dis ça parce que moi je suis le petit frère, tu vois. Et il n'y avait plus grand chose.
C'est vrai qu'on dit bien que l'intuition c'est uniquement de l'expérience finalement. Donc en fait c'est ton expérience à toi, Tupo, qui parle.
En tout cas, pour essayer de répondre à cette question, on peut donc regarder les probabilités de division, mais on peut aussi regarder à l'échelle un peu plus spécifique, moléculaire, et regarder en fait, d'essayer de découper la cascade et de regarder. Quels sont les premiers événements pendant la division, juste après la division, à quel moment on aurait potentiellement la différenciation qui se mettrait en place dans les cellules. Et ça pourrait permettre de donner une petite réponse à cette question.
Bon, c'est fantastique. Lisa, merci pour ce beau dossier. Est-ce que tu es venue avec une citation?
Eh bien, déjà, merci à vous de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Et oui, au début, j'ai voulu faire la fille super intelligente et trouver une citation de dingue. Et après, je me suis souvenue d'une phrase assez simple que j'ai entendue quand j'étais petite. Parce que, pour la faire courte, j'ai grandi dans une petite ville où chaque année, on avait une espèce de petite remise des prix et par le maire de la ville. Et il nous donnait un prix pour nous remercier de notre bonne année. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je devais avoir 4-5 ans, il m'a dit « Souviens-toi que dans la vie, on se lasse de tout, sauf d'apprendre. » Et je pense qu'il avait raison, et c'est sûrement ça qui a dicté un peu mon parcours ensuite, parce que c'est vrai que les jours peuvent être chiants si ta journée est éclairée par la compréhension d'une chose, aussi bête soit-elle, je trouve que ça fait la diff.
Ça fait la diff.
C'est vraiment un épisode très très philosophie. Hein.
Ouais, merci monsieur le maire.
Très bien. Ouais, comment il s'appelait monsieur le maire?
Je me souviens que de la bonne partie.
Bon. Eh bien, pour conclure cette fantastique émission, je vais commencer par remercier Lisa, notre invitée, pour avoir concocté ce passionnant dossier. Puis, je vais rajouter une citation, moi-même, en vague rapport avec le sujet. Hein. C'est tiré du film Le Bon, la Brute et le Truand, de Sergio Leone. Et ça dit « Le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. » Et je la remodèle hein, quand même. Je vais la remodeler ainsi. Le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui ont écouté l'émission 506 de Podcast Science et qui ont tout compris aux divisions asymétriques. Et les autres. Ne soyez pas les autres et les jaunes. Ou mieux, convainquez les autres d'écouter Podcast Science et de servir la science, car c'est notre joie.
Salut, c'est Johan de Podcast Science. Avant de commencer l'épisode, on voudrait vous inviter à notre prochaine émission en public, notre radio dessinée. Le thème est alléchant comme une chronique de topo avec